m'ennuie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Une bonne idée sortie?
C'est super!
L'interview du jour.
48FM.
Alors bonjour, je m'appelle Véronique Proust, je suis donc conférencière, historienne, j'exerce donc à Paris et en Lozère, qui est mon pays natal. Je présente donc les expositions dans les musées, je présente les musées, les monuments historiques, je fais également des voyages puisque j'ai une agence de voyage. Et ici, donc, à Marvejols particulièrement, j'ai monté, en fait, il y a 5 ans, ce qu'on appelle l'Université culturelle de Lozère, qui est en fait un centre de conférences dans lequel je propose des conférences d'histoire de l'art et des civilisations, d'une part, et d'autre part, des conférences sur des sujets précis. Vous voyez, par exemple, l'année dernière, c'était l'année Beethoven, alors, donc, beaucoup de conférences sur Beethoven. Cette année, c'est l'année Napoléon. Beaucoup de conférences sur Napoléon. Donc voilà, je m'inscris en fait dans l'actualité historique et culturelle, et je la porte donc avec beaucoup de joie, et tant que je peux, donc ici à Marvejols.
Et justement, une grosse actualité sur Marvejols, l'office de tourisme qui vient de déménager, partir sur l'ancien tribunal. Et cet ancien office de tourisme qui est situé boulevard Chambrin, au 9, vous allez en faire un pôle culturel avec une collection. Vous pouvez nous expliquer ?
Alors, le 9 boulevard de Chambrun, en réalité, donc, c'était un local qui appartenait donc à monsieur et madame Fischer, qui ne peuvent plus m'accueillir maintenant, et donc j'ai déménagé en fait donc à l'office, l'ancien office de tourisme qui se trouve porte de Soubéran. C'est l'une des 3 portes de Marvejols. Celle-là, on la reconnaît bien puisque c'est celle qui est juste derrière la statue d'Henri IV. Là, il y a en fait donc un véritable local dans lequel je vais continuer donc à exercer toutes mes conférences à la fois cet été et durant tout l'hiver, et autant que faire se peut, et qui sera aussi un local dévolu essentiellement à la culture. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que des conférences. Il y aura des ateliers de lecture, des ateliers de poésie. À chaque fois qu'il y aura un événement culturel, ce sera là, ce ne sera pas à l'office de tourisme, puisqu'on a bien décidé donc de séparer les 2 bâtiments. Un premier, l'office de tourisme, qui est destiné à l'accueil du touriste et évidemment à la présentation du territoire, tandis qu'ici, porte du Soubéran, c'est essentiellement sur des sujets ponctuels, essentiellement culturels. Ça, c'est fondamental.
Mais sur un bâtiment du XVIIe siècle, ici ?
Alors, c'est compliqué parce qu'en réalité, on a le duc de Joyeuse, pendant les guerres de religion, a rasé les fortifications de Marvejols. Et Henri IV, donc, pour remercier cette ville martyre, a, en 1602, donc, décidé de reconstruire un peu les fortifications, dont les 3 témoignages sont les portes. Et ces portes, en fait, sont effectivement de 1602. Elles ont été construites, en fait, sur des édifications plus anciennes. Du coup, ça rend un peu le lieu un peu biscornu, mais fort attachant, me semble-t-il. Mais oui, on peut dire, effectivement, 1602. Alors, c'est très préoccupant, parce qu'en réalité, quand on arrive, on a l'impression d'être dans une partie médiévale. Mais en réalité, on n'a pas de fossé, on n'a pas de pont-levis. Les machicolis sont juste pour la déco. Donc, on a juste repris les structures médiévales pour en faire quelque chose qui a une image médiévale, mais qui n'en est plus du tout. À l'époque d'Henri IV, on ne veut plus entendre parler de ça.
La collection qui est ici précède bien sûr le Moyen-Âge. Sur cette première salle, on retourne au paléolithique moyen, la préhistoire.
Alors oui, on a une chance extraordinaire, on a une collection, une vraie collection, et là je rends hommage donc à des tas de personnes, le docteur Prunière d'abord, qui a été le premier dans les années 1885, enfin à la fin du 19e siècle, à s'intéresser donc aux tombes mégalithiques d'Écos, et aussi du plateau de la Chambre, de Poujoulet, dans lequel on a découvert donc des dolmens magnifiques. Et après, son travail a été relégué dans les années 50 par 2 personnages, il y en a plus d'autres, hein, bien sûr, mais les 2 essentiels, c'est René Allat et évidemment Gilbert de Chambrun. Ils ont fouillé un certain nombre de sites dans la région et ont eu la gentillesse extraordinaire de faire des dons dans ce musée. Et donc, de ces dons, On a évidemment des silex de l'époque du paléolithique moyen. On a, l'exposition vous explique ce que c'est que l'industrie lithique, qu'est-ce qui s'est passé au paléolithique, à la fois dans le Gévaudan et particulièrement dans notre région. On a ensuite donc des éléments fondamentaux comme par exemple le dolmen du Crespin, qu'on peut voir donc au premier étage, qui est un dolmen qui nous montre en fait tous les travaux que le docteur Prunière a fait sur cette fameuse histoire des crânes trépanés, dont on a toujours dit que c'était peut-être liturgique, peut-être magique, mais si vous venez, vous verrez en réalité pourquoi ça a été fait, donc ça, ce sera la grande surprise. On a également des pièces donc, du néolithique, du bronze ancien, du bronze moyen, donc 1800-750, le bronze, l'âge de fer 750-500, 50 avant Jésus-Christ, pardonnez-moi, et qui nous révèle en réalité qu'il y a eu donc cette romanisation, c'est-à-dire ces fameux gabales, qui étaient donc les Gaulois du Gévaudan qui ont donné le nom au Gévaudan, ces gabales, en fait, se sont romanisés progressivement. Donc, ils avaient des cultes personnels très importants. On a, par exemple, donc, un oppidum très intéressant en haut de Saint-Bonnet de Chirac. On en a un autre au bord du lac de Saint-Andéol dans l'Aubrac, hein, où on a ces fameux Gaulois qui déposaient des offrandes donc, pour obtenir le don des dieux, de leurs dieux, qui étaient des dieux très, très locaux, et qui vont progressivement s'assimiler aux dieux romains. On le voit très bien à Javol. Et on a ici quelque chose de très intéressant, c'est que dans notre collection, on voit que ici, autour de Marvejols, on avait un relais entre Javol et la Méditerranée. Et évidemment, on pose ici donc la question absolument fondamentale, qui est que ce peuple nomade des Gabales, donc 2e, 3e, 4e, 5e siècle avant la christianisation généralisée dans notre région, étaient probablement donc des personnes qui venaient en fait de la Méditerranée et qui étaient en transhumance, si je peux dire, en nomade vers le Massif central. Et ça, c'est fondamental.
On a une pièce remarquable, on a un fémur d'ours des cavernes qu'on a retrouvé ici sur le territoire.
Oh, ça c'est une histoire rigolote, enfin rigolote, je sais pas, mais c'est... Vous savez, il y a une expression qui dit « c'est un ours ». Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « c'est un ours » ? Quand on parle de quelqu'un qui est un ours, on se dit « oh là là, c'est quelqu'un qui est pas drôle, mais qui est surtout solitaire et qui ne parle pas ». Et on a ici, effectivement, un fragment d'ours donc, de la grotte de Nabrias. Et c'est un ours, en fait, l'ours des cavernes, c'est-à-dire l'ancêtre de ces ours bruns tels qu'on en entend parler, vous savez, dans les Pyrénées. Et cet ours-là, à chaque fois, on dit « oh là là, c'est épouvantable ». En fait, c'était un ours qui était très important, mais qui était profondément végétarien. Végétarien. Il ne s'attaquait pas à l'homme, il ne mangeait pas de viande. Il mangeait avec ses grosses dents de l'être, du houx, du sapin, enfin tout ce qu'il avait sous la main. Sauf que, c'est ça ce qui est assez intéressant, c'est que donc, de temps en temps, il y avait donc des périodes glaciaires où il n'avait rien du tout, ou de temps en temps, des périodes arides dans lesquelles tout s'était brûlé, donc il n'avait plus rien à manger. Mais il y a une chose qui est tout à fait intéressante dans ce personnage-là, le fameux ours des cavernes, c'est que plutôt que d'aller manger tout et n'importe quoi comme la bête du Gévaudan plus tard, eh bien, il allait dans la caverne et il se laissait mourir. Et c'est une des raisons pour lesquelles les archéologues ont découvert des os de ces fameux ours des cavernes dans les cavernes.
Donc là, on est au rez-de-chaussée. C'est volontaire de commencer par cette période au rez-de-chaussée ?
Oui. Alors, en fait, oui, parce que d'abord, quand on arrive au rez-de-chaussée, on commence par le début. Donc, c'était une question de chronologie. Mais aussi parce que nous voulions... comment vous dirais-je ? Il y avait 8 vitrines auparavant. On les a réduites à 4. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas un musée. Nous ne sommes une collection que nous voulons mettre en valeur absolument pour laisser après, dans les étages au-dessus, un espace qui permettrait donc de manière récurrente de faire des expositions ponctuelles sur des sujets précis. Donc, laissons la place qu'il faut à la collection sur le rez-de-chaussée et le premier étage, et après, aux étages supérieurs, la place qu'il faut pour faire des expositions, et on a énormément d'idées.
Sur l'étage supérieur, on retrouve quoi ?
Alors, sur l'étage supérieur, on retrouve 2 choses. Donc, ce fameux dolmen du Crespin qui a été donc fouillé par Gilbert de Chambrun dans les années 75 sur le plateau de la Chance. C'est un dolmen qui recouvre en fait donc une tombe qui ressemblerait en fait donc à une fosse commune familiale dans laquelle on a découvert probablement l'équivalent de 17 personnes, hommes, femmes et enfants, avec des talismans, avec des offrandes. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc je vous invite à venir voir, parce qu'en réalité, j'ai mis pas mal de cartels qui expliquent le pourquoi du comment, et surtout donc, les théories du docteur Prunière qui sont absolument consternantes. On a des vitrines qui vous expliquent aussi donc, tout l'apport du néolithique jusqu'à l'âge de bronze. Les villas gallo-romaines que nous avons trouvées autour nous ont livré donc, en fait, de la vaisselle. Ce sont des villas gallo-romaines agricoles. On avait donc des clouteries, on avait également donc des poteries. On a retrouvé par exemple donc un élément pour faire de la faisselle. Donc c'était des fromageries. On faisait déjà du fromage de chèvre à l'époque gallo-romaine, c'est-à-dire 2e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est enrichissant ce musée. Enfin, je dis musée, mais en fait c'est une collection, mais c'est très enrichissant. Et après, quand vous continuez, vous arrivez en fait donc au Haut Moyen-Âge, qu'on appelle le Haut Moyen-Âge. C'est 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. C'est assez intéressant parce que nous sommes à l'époque mérovingienne. Tout le Gévaudan n'est pas christianisé, contrairement à ce qu'on croit. On a encore des croyances gallo-romaines, alors que Saint Privat, l'évêque de Mende, a déjà évidemment une aura absolument exceptionnelle. Et quand on a en fait donc créé ici la zone artisanale, donc en montant vers Entrenas, on a donc le cimetière de Maison Rouge qui a été découvert. C'est un cimetière mérovingien qui est très émouvant parce que en fait, pour la première fois, on a des tombes dans lesquelles le défunt est enterré systématiquement suivant une position très particulière. Je ne vous la dirai pas, vous viendrez voir. Et surtout, il n'y a plus d'offrande. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, comme à l'époque romaine, des pièces de monnaie ou alors des tas de céramique dans tous les sens. Non. La christianisation apporte, et ça c'est très intéressant, le fait que dans le fond, la seule chose qui est intéressante dans une tombe, ça n'est pas l'offrande, mais la prière.
Vous apportez aussi les collections ici à Marvejols et notamment par le biais de conférences. Expliquez-nous.
Alors, donc, je fais des conférences tout le temps, partout, particulièrement en région parisienne, mais aussi en Aquitaine, à Lyon, à Bordeaux. Enfin, je suis appelée par certaines mairies pour intervenir sur des sujets précis. Moi, comme je suis marvejolaise de naissance, si vous voulez, ça, je me dis dans le fond, je vois pas pourquoi je ferais pas ça, donc à Marvejols particulièrement. Et en fait, je refais en fait complètement un cursus d'histoire de l'art, de la préhistoire jusqu'à l'art contemporain. Donc ça, c'est quand même important. Voyez-vous, la collection Pinault vient d'ouvrir à Paris. Donc cet hiver, je vais donc présenter cette collection Pinault et donner en fait donc deux, trois petites capsules d'histoire de l'art sur l'art contemporain. Ça ne mange pas de pain. Si on le dit avec pédagogie, je pense que ça peut absolument passer. Ça permet en fait donc d'avoir une autre approche parce que évidemment, donc, on a la télévision chez soi qui va vous dire Pinault a ouvert sa galerie, ok, d'accord. Par contre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Si on peut l'expliquer donc avec pédagogie, c'est top. Voilà, moi c'est mon approche, hein. Voilà. C'est quelque chose qui est plutôt chaleureux et c'est plutôt la générosité qui me porte, hein. C'est ça que je voulais vous dire.
Et justement, actualité oblige, ce cycle de conférences pour cet été va porter sur Napoléon et justement vous allez en parler de manière un peu ludique.
Oui, alors Napoléon c'est quand même un sujet qui n'est pas facile, on l'a vu tout l'hiver. Il y a eu des tas de polémiques. Moi, ce n'est pas ma position. D'abord, l'été, mes conférences s'adressent essentiellement à des gens qui passent des vacances. Donc, ils ont envie d'avoir des vacances intellectuelles, tout en continuant quand même donc, à se cultiver. Donc, plutôt que de parler de la bataille d'Eylau, qui a été donc une charpie épouvantable, avec un nombre incalculable de milliers de morts, centaines de milliers de morts, je préfère plutôt parler de Napoléon et les femmes, du sacre de Napoléon, le fameux tableau en fait, donc, de Jacques-Louis David, qui est rigolo, parce qu'en réalité, c'est un tableau qui raconte toute l'histoire de Napoléon, mais qui, en même temps, a été peint, si vous voulez, donc en 2 mois, alors que le sacre a quand même duré 5 heures. Il y avait même des personnes, en fait, qui savaient que ça allait durer longtemps, qui avaient pris un casse-croûte. Ça fait des jaloux, vous savez. Bon, je ponctue avec des anecdotes, parce qu'on est là pour s'amuser. Napoléon et les femmes, ça aussi, c'est intéressant. On a également, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait Napoléon et l'Europe, parce que c'est intéressant de montrer comment il a basé les structures, en fait, donc, de l'Europe contemporaine. Et puis, voilà. Et puis, alors, je ponctue ici à Marvejol particulièrement. Je présente l'exposition de la Villette. Donc, l'exposition de la Villette la Villette à Paris, hein, donc à la Halle de la Villette, une exposition absolument remarquable, qui a été passée sous silence tellement il y a eu d'informations et de contre-informations par rapport à Napoléon, le personnage lui-même, mais l'exposition est absolument remarquable. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison que le public marvejolais n'en profite pas, ils ne sont pas obligés de prendre le train pour ça, c'est compliqué. En revanche, je leur présente donc l'exposition, je leur parle de ce qui est important dans cette expo, il y a des photos qui leur montrent l'exposition, si bien qu'ils ont l'impression de la visiter. Et donc ça m'intéresse en fait de l'apporter au Marvejolais.
Pour revenir sur cet ancien office de tourisme, ce nouveau bâtiment, ce nouveau pôle culturel, quand on monte les étages, on arrive au dernier, qu'est-ce qu'on trouve ?
Alors au dernier, j'ai presque pas envie de vous répondre.
Vous pouvez garder le secret, hein.
Oui, alors je vous dis des secrets à vous et particulièrement à vous. On a une ville absolument magnifique, mais qu'on ne voit jamais d'en haut. Et quand vous montez dans la porte du Soubéran, là-haut, vous êtes... Oh ! Vous avez une vue à couper le souffle, non seulement sur les toits de la ville, et c'est là... Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez le travail des losiers, comment ils font les toits, comment ils font les épis de faîtage, comment ils font les cheminées, comment ils les organisent, enfin bon, tout ça, c'est formidable. On a également quelques surprises que vous verrez quand vous monterez là-haut. Et puis, on a une vue pratiquement à 180 degrés. Depuis, en fait, à gauche, la chapelle des pénitents, on a en face le truc du Midi, le plateau du Pougil, le plateau du Poujoulet, le truc du Midi, le plateau de la Champs. Ensuite, on a la rue droite en face, en bas, qui nous montre, en fait, cette espèce de perspective... très émouvante, je trouve. Et à droite, vous avez au fond le plateau de la Champs, la chapelle des Augustines, et puis vous avez à droite donc Notre-Dame de la Garce. Enfin, c'est une ville magnifique. Et vu de cet angle-là, honnêtement, moi, je discute beaucoup avec des touristes donc qui arrivent ici et qui connaissent rien. Ils sont complètement que ce c'est que ce truc. Enfin, ils sont complètement étonnés, si vous voulez. Mais quand ils arrivent là-haut, ils se disent waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une ville magnifique. Donc ça, il faut le mettre en valeur et c'est notre rôle.
On va pouvoir le découvrir ce samedi. C'est ce samedi qu'on inaugure cet espace ?
Oui. Alors 9h30. 9h30, c'est l'inauguration officielle, si je peux dire. Donc voilà, on a les élus, la préfète qui viennent couper le ruban rouge pour inaugurer l'office de tourisme, qui est dans l'ancien palais de justice de Marvejol, donc qui est magnifique, magnifique. Donc ça, je pense que Marvejol va être très très fier de cet office. Avoir un bon office de tourisme et un bon accueil auprès des touristes, surtout par les temps qui courent, c'est fondamental pour l'économie de la région. Donc nous ne faisons pas ça à cavaler comme des tarés pour faire n'importe quoi. On est là véritablement pour le bien de Marvejol et de sa région. Hein, donc ça c'est fondamental ce que je vous dis. Et du coup, dans la foulée, on inaugure cet espace culturel dans lequel j'accueille qui vous voulez, quand vous voulez, pour leur parler évidemment de notre beau patrimoine.
Mais on espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va venir ce samedi. Merci beaucoup.
Merci à vous.